Salut, salut! C'est la courte échelle, comme tous les dimanches, sur Radio Galère 88.4. La courte échelle, c'est quoi? C'est une émission anticarcérale où on parle de prison, donc d'anticarcéralisme. On parle aussi de garde à vue, de centres de rétention et d'hôpitaux psychiatriques. Voilà, donc c'est tous les dimanches à partir de 19h30 et jusqu'à 20h sur Radio Galère 88.4. Pour nous appeler en direct, c'est au 04 91 08 28 10, 04 91 08 28 10. Et pour nous écrire, c'est Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13 003 Marseille. On vous répond dès que possible. La courte échelle, c'est aussi un mail, la-courte-échelle@rise.net. Alors aujourd'hui, c'est le début, c'est un peu le début de l'été, donc je suis seule, c'est Hello, salut. On va essayer de tenir l'émission un maximum en juillet et en août. C'est pas garanti qu'on soit là chaque dimanche, mais on va faire le maximum pour que ce soit rendu possible. C'est important pour nous, c'est important pour tout le monde de parler de prison. On n'oublie jamais les prisonniers, les prisonnières et leurs proches. Aujourd'hui, on va passer un enregistrement. Donc, c'est un enregistrement qui nous a été confié par l'émission de radio anticarcérale La Petite Cuillère à Lyon. On en profite pour les saluer. Un grand salut à La Petite Cuillère à Lyon. L'anticarcéralisme est partout, c'est cool. Également, salut à Tom qui a fait la médiation et nous a permis d'avoir cet enregistrement à temps. C'est génial. Alors, qui parle dans cet enregistrement? C'est Shane Morris. Donc, Shane Morris, il a écrit un livre en partenariat, en lien avec Gwenola Ricordo et Joël Charbit. Ce livre s'appelle « Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal ». Parution en 2024, tout récent, chez Lux Éditeur, donc basé en Amérique du Nord, au Canada. Excellente maison d'édition au passage. Donc, comme c'est indiqué dans le titre, et on ne va pas aller beaucoup plus loin, c'est un livre qui parle d'abolitionnisme, abolitionnisme de la police, abolitionnisme des prisons, de la prison, du système pénal, des tribunaux. Un vrai projet politique et des luttes historiques qui nous inspirent encore aujourd'hui, évidemment. Voilà, donc on passera ensuite un petit son à l'issue de cet enregistrement, un petit son de Kenny Arcana, de circonstance, j'ai envie de dire. Quelques notes d'agenda marseillais quand même. Rendez-vous eh bien, ce soir à 20h, hein, juste après l'émission, place Cadena. Pas loin de la friche, justement, en lien avec en fait, les élections, voilà, pour dire non de toute façon à tout un projet raciste de société contre l'extrême droite, contre le fascisme. 20h, place Cadena à Marseille. Et un peu plus loin dans le temps, le 5 juillet, donc vendredi prochain, à Marseille toujours, rendez-vous pour une pride radicale, une pride revendicative. Une pride de colère aussi. Et dans le mot d'ordre, justement, les prisons sont évoquées. C'est une pride anticarcérale qui aura lieu, contre les frontières aussi. Donc, rendez-vous le 5 juillet. C'est un rendez-vous qui aura... Ce sera à 17h30, pardon. 17h30 devant le parc Longchamp pour un atelier pancarte, avant un départ de la marche prévu pour 20h. Et un queer mage, donc à l'arrivée de la marche, c'est-à-dire qu'on rendra hommage à toutes les personnes queer victimes du système, en fait, voilà, dans un queer mage. Voilà, alors je vous laisse écouter maintenant Shane Morris. Et je dis en même temps plein de force à tous les prisonniers, toutes les prisonnières, notamment avec la chaleur qui arrive, hein, plein de force aux proches également. On lâche rien. À très bientôt. À très bientôt sur la courte échelle. Salut.
Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal. C'était mettre en chantier l'histoire de l'abolitionnisme pénal, nécessairement de manière modeste et lacunaire, de montrer les mobilisations, les pratiques, les stratégies et les réflexions qu'il y a pu avoir autour de l'abolitionnisme pénal depuis les années 60, donc en fait depuis 5 décennies, depuis 50 ans. Je m'appelle Shane Morris, je suis doctorant en sciences politiques et je fais une thèse qui porte sur l'histoire de l'abolitionnisme pénal en Europe depuis les années 60 jusqu'aux années 2010 à peu près.
Prison abolition. I am a prison abolitionist. The case for abolition.
Must defund the policing system.
There was a spike in online searches for the phrase abolish prison in early June last year.
Prisons are really being used to solve social problems. We criminalize all of these social problems. And abolitionists are saying prisons create more harm than they ameliorate.
L'abolitionnisme pénal est un courant de pensée de lutte qui s'est développé de manière, on va dire, que nous on considère de manière systématique à partir de la fin des années 60, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Et l'abolitionnisme a voulu dépasser la critique réformiste de la prison qui existait depuis le 19e siècle, depuis sa fondation moderne, depuis la fondation du système pénal moderne en Occident. Les abolitionnistes ont voulu dépasser la critique réformiste de la prison, c'est-à-dire ne pas seulement critiquer son fonctionnement, le fonctionnement de cette institution, mais vraiment ses fonctions sociales et politiques, sa rationalité et donc sa légitimité. Les abolitionnistes considèrent qu'il faut abolir cette institution à la base parce qu'elle est inefficace dans les fonctions qu'elle s'assigne. Les plus connues sont la dissuasion, la réinsertion, le fait que ça rend les gens sécures dans la société. Ils considèrent aussi que c'est une institution qui est inopérante dans son approche des situations qu'on appelle crime, mais aussi qu'est une institution destructrice, notamment parmi les groupes sociaux précarisés et racisés qui vont être... historiquement, depuis deux siècles, ses victimes principales. Et donc, en bref, les abolitionnistes considèrent qu'il faut abolir l'institution prison, puis après d'autres institutions plus larges, comme le système pénal en général, ou d'autres formes de contrôle social, parce qu'en fait, ça crée plus de problèmes que ça n'en résout, d'une certaine manière. Et donc, il faut non seulement abolir ces institutions, mais en plus, en parallèle, construire d'autres approches, d'autres solutions pratiques, d'autres modes de régulation sociale qui permettraient de réellement régler les problèmes sociaux qui sont dénoncés à la base. Donc nous, dans le livre, on prend le parti de prendre cette catégorie d'abolitionnisme pénal dans un sens très large, c'est-à-dire de ne pas se limiter aux mouvements ou aux personnes qui ont revendiqué l'étiquette en elle-même, parce que quand on regarde historiquement, comme tous les ismes, socialisme, libéralisme, etc., la plupart du temps, c'est des courants assez hétérogènes. Les fondateurs européens qui sont néerlandais et norvégiens. Donc on a les deux néerlandais, Lou Kussmann et Herman Bianchi, et les norvégiens, Niels Christie et Thomas Mathisen. Et donc ça, c'est des universitaires qui sont nés généralement entre les années 20 et 30, qui ont connu la guerre dans un pays occupé. Certains, notamment les deux néerlandais, ont été enfermés dans des camps de concentration. Donc ils ont une expérience directe de l'enfermement pendant la guerre, de l'arbitraire, de l'État sous occupation nazie. Et ils ont un âge entre 30 et 40 ans quand il y a les années 68, comme on les appelle. Ils ont des positions universitaires et ils sont bien impliqués dans ces années-là de révolte au niveau universitaire, au niveau pénal, etc. Et donc, ils participent avec d'autres à politiser la question de la prison, de l'enfermement, du système pénal. Et ces quatre-là, en particulier en Europe, en tout cas, vont forger tout un tas de concepts centraux dans l'abolitionnisme aujourd'hui. Par rapport à ces quatre pères fondateurs de l'abolitionnisme européen, la différence principale, certainement, ça va être que quelqu'un comme Thomas Mathisen, le Norvégien, lui, c'est celui qui a écrit souvent ce qu'on considère comme la Bible de l'abolitionnisme en 1974, un livre qui s'appelle The Politics of Abolition, donc la politique de l'abolition. Il était engagé depuis la fin des années 60 dans un groupe de réforme pénale radicale en Norvège, où il y avait dedans des prisonniers, où il y avait différents professionnels du médico-social, des universitaires, des intellectuels, des étudiants. Et ils étaient engagés dans les luttes carcérales, en fait, qui étaient assez énormes. Et ça, c'était pas qu'en Norvège, c'était dans toute la Scandinavie en général. Ils étaient très liés, tous ces mouvements-là. Et donc lui, de son expérience de plusieurs années dans ce groupe-là, en 1974, en anglais, il sort ce livre pour montrer en fait l'évolution politique de ce groupe-là, où à la base, il demandait, comme la plupart des groupes de cette époque-là, des réformes pour que les prisonniers aient plus de droits, pour qu'on ait des conditions de détention un peu plus favorables. Et en fait, il explique comment le groupe a fini par devenir abolitionniste, a développé cette posture abolitionniste. Niels Christie, donc le Norvégien Niels Christie et le Néerlandais Lou Kussmann, quant à eux, vont plutôt avoir une... Enfin, ils vont être aussi impliqués dans différents groupes de réformes pénales radicales et abolitionnistes dans leurs pays respectifs. Par exemple, aux Pays-Bas, Lou Kussmann sera fondateur de ce qu'on a appelé la Corner Liga, qui était beaucoup plus proche des cercles de pouvoir, mais qui était très radical aussi d'un point de vue de politique criminelle, comme ils appellent ça là-bas, très abolitionniste. Et donc, ces deux personnes, par exemple, vont beaucoup plus insister sur la déconstruction de ce qu'on appelle le crime, c'est-à-dire la catégorie qui est au fondement même du système pénal. Et donc ça, c'est quelque chose qui est central dans la critique abolitionniste, c'est comment on peut aller contre l'évidence culturelle et la légitimité sociale du système pénal, justement en montrant que c'est plus un problème social en soi que le crime n'est censé l'être. Donc, c'est-à-dire que les coûts sociaux du système pénal sont supérieurs à ses bénéfices. Et donc dedans, comme je disais, la critique abolitionniste se concentre sur trois points généraux, à dire qu'il reproche au système pénal son caractère inefficace, inopérant, injuste et inégalitaire, et destructeur et immoral.
Is there alternative? That is to me to get people to talk to each other, to perceive what happened, try to bring parties together, try to see conflict as a possibility for clarification what is wrong, and then to get people into a position where again they have a chance to meet each other and to see each other as human beings.
Il n'y a rien qui définit par essence ce qui est un crime. Quand on regarde historiquement et encore jusqu'à aujourd'hui et géographiquement, le crime, derrière, il y a une infinité d'actes et de situations et d'acteurs très différents qui sont amalgamés et qui comportent souvent aucun dénominateur commun, si ce n'est la criminalisation. C'est-à-dire si ce n'est l'action du système pénal pour réprimer cette action ou ces individus. Donc en fait, pour eux, il faut supprimer cette catégorie de crime parce qu'en fait, elle n'a aucune valeur descriptive. C'est une catégorie qui, pour eux, est réductrice. C'est-à-dire que les faits incriminés n'ont aucune similitude entre eux au regard de leurs impacts concrets sur la vie des gens. Le crime en tant que catégorie ne prend en compte qu'une partie des torts et des préjudices que les gens vivent dans leur vie. Et à l'inverse, dans ce qu'on appelle le crime, donc dans le code pénal par exemple en France, il y a toute une partie des choses qui sont criminalisées et qui ne sont pas préjudiciables pour la plupart des gens, mais qui vont servir par contre à criminaliser certains types de populations. Ensuite, donc, la catégorie de crime, elle porte une construction judiciaire de la réalité qui est manichéenne et inopérante pour eux. C'est-à-dire que ça fonctionne selon des dichotomies qui dessinent des bonnes et des mauvaises personnes, des victimes, des auteurs, et qui ne permettent pas d'appréhender en fait les conflits qu'il y a à la base de ces situations-là souvent. Et une des critiques aussi, pour continuer sur cette catégorie de crimes, donc de Christie et d'Ulsman notamment, c'est de dire que le système pénal impose sa propre construction de la réalité sans prendre en compte les besoins des personnes concernées. Et donc ça, par exemple, Nils Christie, le Norvégien, va parler d'un concept qui a été très influent pour tout un tas de courants de justice alternative à partir des années 80, qui va être le vol des conflits. Il dit qu'en fait, le système pénal, depuis sa constitution il y a deux siècles, néglige les intérêts et les besoins des victimes et des communautés. Le droit pénal, pour lui, est un outil d'expropriation des conflits, car il va le transformer en fait des griefs de telle ou telle personne en litiges judiciaires, et avec une mise en récit juridique qui va dépasser les individus. C'est-à-dire que les gens qui vont faire rentrer les situations, les problèmes qu'ils vont avoir dans la machine pénale, ils vont après se voir assigner des rôles et des modes d'interaction prédéterminés, qui sont ceux du code pénal, et des critères de justice dans lesquels souvent ils ne se reconnaissent pas. Pour Nils Christie, la grammaire et la mise en scène du procès, typiquement, va avoir tendance à exacerber, à radicaliser le conflit, sans forcément proposer des solutions réellement satisfaisantes. Une des autres critiques fondamentales de Christie et d'Ulsman, ça va être, sur la justice pénale, ça va être de critiquer le processus de bureaucratisation et de professionnalisation qui est dans le système pénal. Tu vas avoir toute une salle de professionnels qui vont se charger de gérer ça pour eux et qui vont souvent, en fait, à terme et historiquement, finir par agir parfois plus selon des logiques professionnelles que pour, à la base, régler la situation pour laquelle on est normalement pris dans ce cas, c'est-à-dire pour régler un problème. Autre chose problématique avec le système pénal et donc sa grammaire du crime, ça va être que c'est fondamentalement dépolitisant au niveau des situations. C'est-à-dire qu'on va considérer souvent les choses d'une manière individualisante, pathologisante, et donc qui oblitère totalement les dimensions les plus structurelles, c'est-à-dire sociales, économiques, culturelles, à la source des actes qui vont être criminalisés. Et donc, en fait, ça va oblitérer la dimension politique même du système pénal, de la prison après, etc. Et donc, de la société inégalitaire qui est la source aussi de toutes ces situations. Et ensuite, les grosses critiques de l'abolitionnisme, donc les deux et trois, ça va être que c'est injuste et inégalitaire et destructeur et immoral. Donc, injuste et inégalitaire, c'est simplement dire que depuis le 19e siècle, le système pénal surcriminalise certaines catégories de population qui sont déjà précarisées et marginalisées, c'est-à-dire généralement les hommes jeunes, issus des classes populaires, mais aussi de l'histoire coloniale et d'immigration. Pour les abolitionnistes, il faut repolitiser la question de la criminalisation du système pénal, précisément parce que le système pénal, donc ces trois institutions qui sont dans la police, les tribunaux et la prison, et puis toutes les autres peines qui vont avec, perpétuent et aggravent en fait un ordre social et racial inégalitaire. C'est-à-dire qu'on sait sociologiquement que tout le monde commet des actes criminalisables, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le code pénal, mettons. Mais comment expliquer que seulement une partie de la population se retrouve dans les faits criminalisés ? C'est ce qu'on appelle souvent en sociologie la criminalisation différentielle ou sélective. Et quand on parle de criminalisation, il faut considérer non seulement la criminalisation, ce qu'on appelle aussi en sociologie primaire et secondaire. La primaire, c'est celle qui va être dans les lois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va considérer comme crime à la base, dans les textes de loi. Et secondaire, c'est comment on va, dans les faits, la police ou les institutions pénales, qui est-ce qu'elles vont cibler dans les faits, tu vois. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit dans la criminalisation primaire ou secondaire, en fait, c'est toujours les catégories populaires, généralement, qui sont ciblées en préférence. Et comme je le disais, il y a tout un tas d'autres actes qui sont souvent hautement plus néfastes, pour, socialement, pour la société, en termes de mots, même de morts, de tout ce que tu veux, en fait, qui sont souvent même pas considérés par le système pénal ou vraiment à la marge. Ou alors pas dans les faits criminalisés. Thyssen, Thomas Mathisen, donc le Norvégien qui était dans le groupe PROM, qui est sociologue aussi, lui, il va dire que le système pénal, et la prison en particulier, ont une fonction d'épuration des improductifs et des surnuméraires. Donc, pour synthétiser, pour les abolitionnistes, le problème, c'est moins ce qu'on appelle, entre guillemets, le crime, que le système pénal. Précisément parce que ses coûts sociaux, et donc toute la vision qu'il porte, et tout ce qui permet de ne pas voir, c'est supérieur à ce qu'on, aux coûts sociaux présumés de ce qu'on appelle le crime dans la société actuellement. L'abolitionnisme, effectivement, est d'abord né dans les luttes autour des prisons. On identifie trois vagues, en fait, pour l'histoire de l'abolitionnisme au niveau global, on va dire. Donc, des années 60 aux années 80, c'est la période de développement de l'abolitionnisme en Europe et en Amérique du Nord, donc, qui passe par une politisation, une médiatisation de la question de la prison, du système pénal, d'une prise de parole inédite des prisonniers et des prisonnières elles-mêmes, en tant que sujet politique, voire dans certains pays révolutionnaires. C'est un moment où il y a des cycles de mouvements de prisonniers, de mouvements de réformes pénales radicales qui agissent pour avoir des réformes, et donc ils en obtiennent un certain nombre, mais en même temps, il y a des fortes vagues de répression qui s'en suivent. C'est aussi un contexte où dans plein de pays, il y a des vagues de dépénalisation, de décriminalisation, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs délits ou crimes qui sont enlevés du code pénal suite à différentes luttes. C'est un contexte aussi pénal, mais aussi socio-économique plutôt favorable. C'est-à-dire que c'est des années où il y a encore le plein emploi la plupart du temps, ou en tout cas, il n'y a pas de problème de chômage de masse comme ça va faire après, à partir des années 70, enfin, de la milieu des années 70, des années 80. Donc voilà, c'est un peu un moment où quand tu interroges tous les acteurs de cette époque-là, ils se disent vraiment, l'horizon est ouvert. Ils pensent que tout est possible, et même la plupart des abolitionnistes pensent que la prison disparaîtra à terme, dans pas si longtemps que ça. Et à la limite, pour les moins optimistes, elle disparaîtra, par exemple, comme Foucault, on va dire, la prison est déjà obsolète parce que de toute manière, il y a tout un tas de logiques de disciplinarisation dans la société qui fait que de toute manière, même on n'en aura pas besoin. Même aux États-Unis, on ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais aux États-Unis, encore à cette époque-là, la prison n'est pas utilisée de manière aussi massive qu'elle a été par la suite. Donc dans tout un tas de pays, dire qu'il faut abolir la prison, ce n'est pas non plus un truc hyper révolutionnaire, quoi. Enfin, je veux dire, ça peut l'être, mais globalement, ce n'est pas aussi choquant que ça pourrait paraître aujourd'hui.
It's a subject I know you've been thinking about too. Crime in our society. Many of you have written to me how afraid you are to walk the streets alone at night. We must make America safe again, especially for women and elderly who face so many moments of fear. You have every right to be concerned. We live in the midst of a crime epidemic. Our criminal justice system is broken down, that it just isn't working, and many Americans are losing faith in it. 9 out of 10 Americans believe that the courts in their home areas aren't tough enough on criminals.
On appelle la deuxième vague à partir des années, milieu des années 80 ou années 90, où là il y a vraiment un déclin de l'abolitionnisme en Europe notamment, et des groupes, même dans les milieux académiques, on va dire le courant abolitionniste est beaucoup moins porteur. Mais dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un renouvellement par exemple de l'abolitionnisme en Amérique du Nord. C'est-à-dire qu'avant, dans la phase de la première vague des années 60 aux années 80, les idées abolitionnistes étaient plutôt portées par un groupe, par exemple, comme les Quakers. Donc, la Société des Amis, vous savez, c'est des religieux qui sont impliqués dans tout un tas de buts depuis des siècles. D'abord contre l'esclavage. D'ailleurs, ils faisaient le lien, et c'est pour ça qu'à la base, ils parlaient d'abolitionnisme déjà dès les années 80. C'était directement en lien avec cette question de l'esclavage. Ils étaient en lien avec les Européens. Donc, c'était plutôt ça, sociologiquement, qui alimentait l'abolitionnisme. Et après, il y avait toutes les luttes, bien sûr, des prisons aux États-Unis, lutte de libération africaine-américaine. Mais ce qui est intéressant à partir des années 80, c'est qu'aux États-Unis, la lutte autonome de l'abolition des prisons, etc., va vraiment être reprise en main par les luttes de libération africaine-américaine, notamment par une figure comme Angela Davis, qui va créer avec d'autres, avec Ruth Wilson Gilmore et d'autres, Critical Resistance à la fin des années 90. Donc Angela Davis avait participé à différentes luttes et même critiques écrites en termes critiques sur la prison déjà dans les années 70-80, mais là où elle investit massivement et en impliquant aussi tout un tas de groupes et en créant vraiment un mouvement fort, c'est à partir des années 90. Du coup, en passant par exemple d'une sociologie plutôt Quakers à plutôt des luttes marquées par les luttes africaines-américaines, il va y avoir aussi la dimension antiraciste beaucoup plus marqué et beaucoup plus révolutionnaire même dans son empreinte.
The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism.
Prison abolition is actually about imagining a world that is a different order. And when I say that, I don't mean pie in the sky, but rather look at what people do today to solve problems.
Donc à un moment, là pour le coup, en termes socio-économiques, politiques, pénales, bien plus compliqué que dans la première vague. C'est-à-dire là, aux États-Unis, on arrive à une phase d'incarcération de masse. C'est-à-dire qu'entre les années 80 et les années 2010, où là c'est vraiment l'apogée, on a la population de prisonniers est quintuplée aux États-Unis. Et ça devient le pays où il y a le plus de prisonniers au monde. Donc dans ce contexte-là, de la deuxième vague, il y a dans plein de pays une fragmentation, une reconfiguration des luttes. Par exemple, en Europe, l'abolitionnisme va être beaucoup plus sur la défensive. Il y a énormément de groupes qui vont disparaître et d'autres simplement qui vont plutôt se réfugier dans des formes de lutte juridique pour essayer de défendre simplement les acquis qu'ils ont pu avoir. Dans la deuxième vague, il y a aussi simultanément une croissance de l'abolitionnisme en Amérique latine. C'est-à-dire qu'il y a plein d'abolitionnistes européens, comme Luc Hulsman, le néerlandais par exemple, qui voient qu'au moment où l'horizon se ferme en Europe, ils vont concentrer leur énergie notamment sur des pays où c'est beaucoup plus ouvert. Notamment en Amérique latine, il y a beaucoup de pays qui sortent de dictature, qui sont en période de transition démocratique, et où ils sentent que l'horizon est propice à ce genre d'idées-là. Et donc il y a un développement assez considérable de ces idées abolitionnistes à partir des années 80 en Amérique latine. Historiquement, il y a eu un élargissement de la critique abolitionniste, qui est passé d'une critique simplement de la prison, après à du système pénal en général, et aujourd'hui à différentes formes de contrôle qui dépassent même juste la question du système pénal, c'est-à-dire toute forme d'enfermement, y compris administrative, y compris liée aux nouvelles technologies, etc. En fait, la question de l'abolition de la police survient assez tardivement. Et notamment, elle a été de plus en plus connue ces dernières années, notamment en provenance des États-Unis avec les mouvements qui ont suivi le meurtre de George Floyd aux États-Unis en 2020. Bon, ça faisait des décennies que c'était en préparation aux États-Unis, si tu veux, cette question. Mais nous, ce qu'on s'est demandé, c'est pourquoi, par exemple, les abolitionnistes européens des années 70-80, qui avaient déjà élargi la critique au niveau du système pénal, pourquoi ça n'avait pas été dirigé contre la police ? La police est une institution qui a des fonctions tellement larges qui ne se résument pas simplement au pénal, qu'il était difficile en fait, d'imaginer une abolition de la police dans son ensemble. Les abolitionnistes des années 70, quand ils disaient qu'il faut abolir le système pénal, ils parlaient d'abolir notamment la fonction pénale de la police, c'est-à-dire liée au système pénal, aux peines, mais pas la fonction, si tu veux, de secours. Mais ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'il y a une critique de la police généralisée. Pourquoi faire le lien entre la police et la prison ? Simplement parce que la police, c'est la porte d'entrée du système pénal. Il y a une chaîne pénale qui est composée d'abord de la police, ensuite des tribunaux, et ensuite la prison et des autres peines. Il y a des développements aussi historiques, parallèles, et une interdépendance structurelle entre l'institution policière et les institutions judiciaires et pénitentiaires. Donc pénitentiaire, c'est toutes les peines. C'est pour ça qu'on ne peut pas vouloir juste l'abolition du système pénal si on ne prend pas en compte ce qui va l'alimenter à la base, c'est-à-dire la police. L'institution policière surdétermine en amont toute la chaîne pénale, en sélectionnant et en orientant, tant en termes quantitatifs que qualitatifs, les affaires qui vont venir, mais aussi dans plusieurs pays, elle va jouir aussi d'un pouvoir même quasi autonome de sanction. C'est-à-dire qu'elle va avoir un pouvoir discrétionnaire où elle-même va pouvoir exercer une forme de punition, mais directement sur le terrain, sans que ça passe même après par les institutions qui vont suivre. La dernière vague qu'on identifie, nous, c'est à partir des années 2010, où il y a une sorte de résurgence, ou en tout cas de croissance de l'abolitionnisme pénal, à la fois dans le champ militant et dans le champ universitaire, et là, dans tous les pays. C'est-à-dire pas seulement en Amérique, mais aussi ça revient en Europe, et notamment avec une extension de l'abolitionnisme. Comme on l'avait dit, historiquement, il y avait déjà eu une extension des cibles, qui était la prison, ensuite le système pénal. Et dans les années 2010, il y a un truc qui va être de plus en plus marquant, ça va être aussi de viser toutes les formes d'enfermement, donc y compris les luttes administratives. Donc il va y avoir des liens beaucoup plus systématiques avec, contre ce qu'on appelle en France les CRA, mais dans d'autres pays ça a d'autres noms, contre les frontières, etc. Et aussi une extension des fronts de lutte qui vont être liés notamment aux luttes féministes et LGBTQI+, notamment le courant qu'on a appelé le féminisme anticarcéral, qui vont se lier aussi beaucoup avec les luttes anti-validistes et aussi les luttes écologistes. Il y a des sous-courants forts qui vont émerger, donc comme je disais, féminisme anticarcéral par exemple. Il y a l'abolition des frontières qui va être très forte et l'abolitionnisme de la police, là, qui ces dernières années a été beaucoup plus connu d'un grand public. Et aussi, par exemple, d'autres formes qui rentrent dans le courant de l'abolitionnisme comme la justice transformatrice. Et donc le point d'orgue en fait de cette troisième vague, c'est l'année 2020 pour nous. Donc aux États-Unis notamment, il y a ce mouvement de George Floyd dans le contexte du Covid. Voilà, là il y a en fait l'année 2020 marque une forme de mainstreamisation, de popularisation de l'abolitionnisme comme jamais. Donc aux États-Unis, mais aussi en écho dans tout un tas d'autres pays. 99. Ce qui se développe aussi beaucoup ces dernières années dans l'abolitionnisme, et ce qui a intéressé beaucoup, je pense, de militants, c'est particulièrement là depuis 5 ans, en France ou dans d'autres pays, ça va être par exemple aussi la justice transformatrice, donc des nouvelles formes de justice qu'on pourrait utiliser, alternatives, pour se passer du système pénal et pour essayer d'agir aussi en concordance avec une vision politique révolutionnaire. En lien, par exemple, avec la critique du système pénal par les abolitionnistes que j'ai esquissé, sur la critique du crime et donc de toute l'approche en fait du système pénal, de toute sa grammaire, les abolitionnistes comme notamment en Europe, si on peut prendre Lou Koolsman, Herman Bionté ou Niels Christy, ils vont être un peu des pères fondateurs de nouveaux courants de justice, qu'on appellera médiation selon les pays, justice restauratrice ou réparatrice, comme on l'appelait au Québec. Et donc, des formes de justice, en fait, qui ne vont pas chercher à punir, à être rétributifs, comme on dit en termes scientifiques, c'est-à-dire à vouloir imposer un mal pour répondre à un autre mal, mais bien à chercher la réparation du lien social, à donner la parole aux parties impliquées dans les situations conflictuelles ou dans les situations problématiques, comme l'appelle par exemple Koolsman. Donc pour répondre en fait à tous les écueils qui étaient pointés sur la justice, c'est-à-dire qu'elle volait les conflits, c'était les professionnels qui s'en chargeaient, et en plus ça ne répondait pas aux besoins des personnes. Donc là, ces formes de médiation, de justice, vont précisément chercher à faire tout l'inverse, à essayer de vraiment mettre au centre les personnes, favoriser leurs discussions et la résolution des conflits. Mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de ces formes de justice alternatives vont se faire digérer par différents systèmes pénaux, notamment au cours des années 90-2000, au Canada ou dans d'autres pays. Et donc, au tournant des années 2000, il y a une abolitionniste, par exemple, elle n'est pas la seule, mais une des théoriciennes et celle qui va le plus se mettre en place, Ruth Morris, qui va parler de justice transformatrice. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de rétablir les liens sociaux qui ont été brisés, etc., mais précisément de partir de ces situations potentiellement conflictuelles pour transformer non seulement les individus, les groupes qui sont autour, mais aussi la société. En fait, c'est une forme de justice alternative qui va avoir une dimension quand même beaucoup plus révolutionnaire, parce qu'on part de ces petits micro-situations qu'on peut avoir entre nous et voir comment on peut les relier à des dimensions beaucoup plus structurelles, ce qui n'était pas forcément toujours impliqué dans les formes de médiation qu'il y avait dans la justice restauratrice et dans d'autres courants. On ne prétend pas à l'exhaustivité, sachant que c'est un livre assez court, mais ce qu'on a voulu faire vraiment, c'est faire un premier essai, quoi. Et notre objectif, c'est de pouvoir donc mettre ça sur la table et susciter d'autres histoires particulières ou globales autour de l'abolition de la prison, du système pénal. En donnant l'histoire, notre but, c'est notamment d'alimenter l'imaginaire abolitionniste d'une certaine manière, et voilà, et donc de nourrir potentiellement les luttes futures. That it ain't no gun they make that can kill my soul.
do is take the chains off. All we wanna do is take the chains off. All we wanna do is be free. All we wanna do is be free. All we wanna do is take the chains off. All we wanna do is break the chains off. All we wanna do is be free. All we wanna do is be free.
So now it's like the officer's pulling him inside the car. He's trying to pull away. And at no time the officer said that he was going to do anything until he pulled out his weapon. His weapon was drawn and he said, I'll shoot you or I'm going to shoot. And in the same moment, the first shot went off. And we looked at him. He was shot and it was blood coming from him. And we took off running.
Are we all alone, fighting on our own? Please give me a chance. I don't wanna dance. Something's got me down. I will stand my ground. Don't just stand around. Don't just stand around.
As we took off running, I ducked and hid for my life because I was fearing for my life. And I hid by the first car that I saw. My friend, he kept running. And he told me to keep running because he feared for me too. So as he was running, the officer was trying to get out of the car. And once he got out the car, he pursued my friend, but his weapon was drawn. Now, he didn't see any weapon drawn at him or anything like that, us going for no weapon. His weapon was already drawn when he got out the car. He shot again, and once my friend felt that shot, he turned around and he put his hands in the earth, and he started to get down, but the officer still approached with his weapon drawn, and he fired several more shots, and my friend died.
All we want to do is take the chains off. All we want to do is break the chains off. All we want to do is be free. All we want to do is be free. All we want to do is take the chains off. All we want to do is break the chains off. All we want to do is be free. All we want to do is be free.
La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens, libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation, article 49-3, répression. Couvre-feu, dépassé, ta 5ème république a pris un coup de vieux. Le bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale.
Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas.
Nettoyage au Karcher,
gouvernement honteux, 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 est-ce que rien amène à la démission.
Nettoyage au Karcher,
sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas.
Nettoyage au Karcher,
gouvernement illégitime depuis le nom, nom, à la constitution européenne.
Valeurs hypocrites qui écœurent, stigmatisent nos quartiers pour que les autres aient peur. Des politiques qui jouent les acteurs n'assument pas le passé colonial. Et quand les banlieues pètent, accusent les rappeurs. Mauvaise foi exemplaire ou mémoire sélective au doux. Ce France de mon enfance se joue l'amnésie. Que fait la belle quand elle parle d'immigration? Ce n'est pas ton peuple ou collabo qui s'est battu contre l'occupation. Au-delà de ton podium, toi qui fais si fier de tes soi-disant droits de l'homme et de ton siècle de lumière, ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression, comme tout à deux vitesses. Islamophobie à tout va, mais ne critique pas Israël. C'est la politique schizophrène de la France. Fracture sociale maintenue et par l'égalité des chances.
Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard. C'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas.
Nettoyage au Karcher,
n'est pas ton peuple pour la pour qui s'est battu contre l'occupation.
Nettoyage au Karcher,
sortez les dossiers du placard. C'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas.
Nettoyage au Karcher,
islamophobie à tout va, mais ne critique ni
l'idéologie mensongère, nous la font à la transversale. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à Berchap. La France a oublié pour les quelques-uns qui vivent bien que certains sont morts pour le droit des travailleurs, rappelle-le à Villepin. Contre la première embauche, c'est exécute ou dégage. Régression sociale à tous les étages, bientôt le point de non-retour. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois comme un facho. Au premier tour, le perso est arrivé, un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre pro-Bouche, l'OMC à son élève Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF. Pendant que les privatisations sèment la colère, nos politiques sont réjouissent, en sont devenus actionnaires snobs. Des protestations, puis les criminalisent. Envoyez même le GIGN pour stopper des grévistes.
Les voyages au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas.
Les voyages au Karcher,
certains sont morts pour le droit des travailleurs, rappelle-le à
des voyages au Karcher,
sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas.
Les voyages au Karcher,
au royaume des aveugles, les pornes sont rois comme un facho.
Les voyages au Karcher,
sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cacher plus grand des ragas.